Bonjour à tous. Donc pour cette dernière leçon, je vais utiliser une présentation par ordinateur. En fait, c'est aussi pour marquer que jusqu'à présent, j'ai discuté, j'ai expliqué des choses qui sont bien établies. Cette dernière leçon sera plus conjecturale. Et donc, je vais parler de conjectures qui sont apparues lorsqu'on a étudié les billards dont j'ai parlé jusqu'ici. Alors, bien que le texte sera pour la majorité en anglais, à part les titres en fait, je continuerai bien sûr mon exposé en français. Alors, donc, je voudrais rappeler ce qu'on a vu, et ça c'est bien établi. Donc, on a vu qu'au voisinage d'une singularité de genre-espace, donc, comme les singularités cosmologiques ou comme la singularité à l'intérieur des trous noirs de type Schwarzschild, on pouvait prendre la limite BKL des équations d'Einstein ou des équations d'Einstein couplées à la matière et qu'on obtenait une description, en fin de compte, extrêmement simple de la dynamique des champs. En fait, on obtient une description en termes de billards qu'on appelle parfois billards BKL ou billards cosmologiques, qui sont des billards dans l'espace hyperbolique, si on projette sur l'espace hyperbolique, ou bien qui sont des billards à l'intérieur du cône de lumière, mais délimités par des murs, qui sont des hyperplans, donc des hyperplans dans l'espace ambiant de Minkowski des facteurs d'échelle. Donc la dynamique intéressante est portée par les facteurs d'échelle, qui incluent le dilaton, s'il y a des dilatons. Et donc, on a toute une série d'une collection de murs, et ces murs sont donc des hyperplans. Et dans la description où on projette sur l'espace hyperbolique, c'est l'intersection de ces hyperplans avec l'espace hyperbolique, donc ce sont aussi des hyperplans hyperboliques. Et donc, la dynamique, c'est un mouvement libre entre deux murs, interrompu par des collisions avec les murs. Et si les murs forment une région de volume fini dans l'espace hyperbolique, le mouvement est chaotique, ça a été bien étudié par les mathématiciens. Si par contre le volume est infini, alors il y a des directions par lesquelles on peut s'échapper à l'infini, et après un certain nombre de collisions, le mouvement est libre pour toujours, enfin jusqu'à la singularité. Et donc ce qui va déterminer le caractère chaotique ou pas chaotique de la dynamique, ça va être le volume du billard et la forme du billard, le nombre de murs, c'est déterminé par la théorie. Alors il se fait que pour les Lagrangiens intéressants, alors qu'est-ce que ça veut dire Lagrangien intéressant ? Et peut-être je vais déconnecter moi. J'espère que ce n'est pas quelqu'un qui est bloqué à l'entrée. Excusez-moi. Non. Je vais déconnecter, je suis désolé. Donc pour les billards intéressants, c'est-à-dire les billards qui soit proviennent de la gravitation pure, soit proviennent de théories de supergravité. Pour ces théories-là, le billard est intéressant, pardon. C'est-à-dire qu'il a des propriétés supplémentaires par rapport à un billard générique, à savoir, ce sont des simplexes de Coxeter. Donc il y a exactement le nombre de murs qu'il faut, et ni plus ni moins, pour avoir un simplex. Et Coxeter, ça veut dire, je vous le rappelle, que les angles dihédraux entre deux murs adjacents sont des sous-multiples entiers de pi. Pi sur 2, pi sur 3, pi sur 4, etc. Et en plus de ça, non seulement sont des simplexes de Coxeter, mais ils définissent des groupes de Coxeter cristallographiques, c'est-à-dire qui préservent un réseau, ce qui donne une restriction sur les valeurs des exposants de Coxeter. Donc l'ordre donc quand vous faites le produit de deux rotations par des murs adjacents, vous obtenez, pardon, de deux réflexions dans des murs adjacents, vous obtenez une rotation, et l'ordre de cette rotation, donc elle est dans le 2π sur mj, donc c'est mj, il doit être égal soit à 2, soit à 3, soit à 4, soit à 6, soit à l'infini, si les murs se joignent à l'infini, enfin, ils sont parallèles. Et donc, pour les théories gravitation pure ou supergravité, on a cette condition qui est remplie. Donc les simplexes de Coxeter définissent des groupes cristallographiques. Et on a vu que lorsque le groupe est cristallographique, en fait, il y a deux réseaux qui sont préservés. On avait une ambiguïté dans le choix de la longueur des vecteurs définissant le réseau. En tout cas, lorsque enfin deux réseaux, ça peut être multiple, ça dépend du nombre de différences. Donc, c'est lorsque les exposants sont deux différents de deux ou trois, il y a un choix dans les longueurs relatives des vecteurs correspondants, et selon qu'on fait un choix ou l'autre, on a deux possibilités. Évidemment, on doit répéter ça pour chaque MIJ différent de 2 ou de 3. Donc on peut avoir plusieurs réseaux, en fait. Mais dans le cas des billards, les choix sont en fait déterminés parce que les normalisations relatives des vecteurs définissant le réseau sont fixées. Et elles sont fixées, par le fait qu'on a une métrique dans l'espace des vecteurs définissant dans l'espace des murs, donc des vecteurs définissant les murs. Cette métrique est la supermétrique de De Witt. Et donc on connaît les longueurs relatives. Et donc on sait quelles matrices de Cartan et quels entiers de Cartan vont correspondre au cas où les exposants de Coxeter sont différents de 2 ou de 3. En fait, le choix est dicté par, et donc il n'y a pas de choix, par le fait que les formes linéaires qui définissent les murs dominants ont un produit scalaire bien défini par la supermétrique de De Witt. Et donc on a un réseau qui est associé et qui est uniquement défini par la théorie gravitationnelle, et les entiers de Cartan correspondants, donc donnés par cette expression, sont les entiers de Cartan qui apparaissent dans l'expression de la réflexion dans la base des vecteurs alpha i du réseau. Donc le réseau, c'est les multiples entiers c'est les points de coordonnées entières dans la base des alpha i. Bien, donc ça c'est ce qu'on a vu la semaine passée. Et en fait, les entiers de Cartan forment une matrice. Si on les met tous ensemble, on obtient une matrice qu'on a baptisée matrice de Cartan généralisée. Et en fait, toute matrice ayant les mêmes propriétés s'appelle matrice de Cartan. C'est la terminologie que je vais utiliser. Donc, c'est une matrice qui a par construction 2 sur la diagonale. Hein, ben ça, c'est évident. Si vous regardez si vous mettez A, I, J égale à I, ben vous allez avoir 2. Ça, c'est un peu. Les AIJ sont des entiers négatifs, et ça reflète que le fait que les angles dihédraux sont plus petits que pi demi, et donc les vecteurs orthogonaux qui forment un angle supplémentaire, c'est un angle obtus, et donc le cosinus est négatif. Donc les AIJ, lorsque I est différent de J, sont négatifs ou nuls. Et on sait aussi, puisque c'est lié au produit scalaire, que si AIJ est différent de 0, AJI est différent de 0 aussi. Ils ne sont pas nécessairement égaux lorsque les longueurs des vecteurs correspondants sont différentes, mais ils obéissent à cette propriété. Donc toute matrice obéissant à cette propriété s'appelle une matrice de Cartan généralisée, et dans le cas des billards, on a des propriétés supplémentaires pour cette matrice de Cartan généralisée, c'est qu'elle est symétrisable, elle peut s'écrire comme le produit d'une matrice symétrique, en fait la matrice des produits scalaires, par une matrice diagonale, la norme des vecteurs alpha i, hein, je l'ai écrit explicitement comme ça sur le transparent précédent. Donc des diagonales avec des entrées strictement positives, c'était la norme des alpha i, qui sont tous des vecteurs de genre espace, et S est symétrique, c'est les produits scalaires. Et donc il y a naturellement une métrique associée à la matrice de Cartan, qui dans notre cas est de signature lorentzienne, puisque la supermétrique, qui est la supermétrique qui définit tous ces produits scalaires, on l'a vu, est de signature lorentzienne. Alors, comme je vais utiliser les diagrammes de Dynkin dans la suite, je rappelle comment on associe des diagrammes de Dynkin à une matrice de Cartan. Donc à chaque valeur de I, on associe un nœud dans le diagramme de Dynkin, et on trace une ligne entre le nœud I et le nœud J si et seulement si AIJ est différent de 0. Donc si AIJ est égal à 0, il n'y a pas de ligne entre I et J. Et alors, comme les valeurs de AIJ dans le cadre des matrices de Cartan généralisées quelconques peuvent être n'importe quel entier négatif, en général, on va juste écrire les valeurs de AIJ et de AJI au-dessus de la ligne IJ. Mais si les produits sont toujours inférieurs ou égaux à 4, ce qui est le cas pour les groupes cristallographiques, en fait, dans ce cas-là, on a une convention qui est plus économique,
qui consiste à tracer un nombre de lignes qui est égal à la plus grande valeur AJ ou AJI en valeur absolue, donc si, et on dit lequel des deux est le plus grand, en plaçant une flèche selon cette convention. Donc pour prendre un exemple qui est un billard intéressant en fait, donc dont je reparlerai un peu plus tard, si on regarde la supergravité à 10 dimensions n égale 1 avec des multiplets vectoriels, le billard correspondant est décrit par une matrice de Cartan qui elle-même est encodée dans le diagramme de Dynkin suivant. Donc vous voyez que j'écris la matrice de Cartan. Mais donc les choses à voir, c'est que j'ai souvent des 1, enfin moins 1, moins 1, moins 1, moins 1. Donc quand c'est 0, il n'y a pas de ligne, par exemple. Donc ça, ça c'est moins 1, ça c'est 0, ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3, ça c'est 4. Donc la numérotation sera justifiée plus tard. Mais donc, voilà la numérotation que j'ai prise. Et en commençant par le plus bas, moins 1, 0, 1, 2, 1, voilà la matrice correspondante. Vous voyez par exemple qu'entre 1 et moins 1, il n'y a pas de ligne parce que la valeur correspondante est 0. Que ce nœud-ci est particulièrement connecté, 1, 2, 3, 4, c'est le quatrième. Ben effectivement, il y a des moins 1 ici, il y a des moins 1 là, et puis il doit encore avoir un moins 1 de l'autre côté. Donc, vous voyez, mais alors ici, j'ai pris cet exemple parce qu'il n'est pas simplement lacé. Les longueurs des racines ne sont pas les mêmes partout. Donc, vous voyez que c'est un cas où, entre les deux dernières, où les AIJ correspondants sont différents. Donc, on a mis une flèche de 7 vers 8 parce que A8-7 est plus grand que A7-8. Donc, voilà. Donc, l'information contenue ici est exactement la même que l'information contenue là, mais comme il y a beaucoup de zéros, c'est plus commode d'utiliser la notation diagramme de Dynkin plutôt que d'écrire toute la matrice. Mais c'est la même information. Et donc les diagrammes de Dynkin, j'en écrirai encore plus tard, mais c'est pour ne pas devoir écrire, surtout quand c'est des grosses matrices, les matrices de Cartan correspondantes. Bien, alors on a aussi vu que lorsque le point décrivant les facteurs d'échelle, donc c'est un mouvement libre entre deux murs, lorsqu'on touche un mur, il y a une réflexion, c'est une réflexion spéculaire qui prend la forme standard, donc les alpha i sont orthogonaux au mur définissant le billard, et une réflexion orthogonale dans un mur est donnée par, on soustrait un multiple du vecteur orthogonal au mur, alpha i, donc ça c'est la réflexion dans le mur correspondant à alpha i. Il faut normaliser les choses, enfin, moins 2 le multiple fois le produit scalaire avec un vecteur unité, mais puisque ce n'est pas unité, il y a ce facteur-ci qui apparaît. Alors, si on réécrit ça en particulier, donc oui, c'est important à dire aussi, à rappeler, c'est que puisque tous les vecteurs sont de genre espace, les hyperplans correspondants sont de genre temps, et la réflexion est un élément du groupe de Lorentz orthochrone, donc qui préserve l'orientation du temps. Donc la géodésie continue à pointer vers le futur, après réflexion. Et donc en particulier, si pour gamma je prends un des vecteurs associés au mur, vous voyez que la transformation prend cette forme-là, je remplace gamma par alpha j, et ça c'est juste les entiers de Cartan, donc ça vous montre bien qu'un des vecteurs du réseau est transformé en une combinaison linéaire à coefficients entiers, puisque ça c'est des entiers des vecteurs du réseau. Donc le réseau est bien préservé. Donc c'est bien un groupe cristallographique. Alors, les matrices de Cartan donc, sont associées ici au réseau préservé par les groupes du billard, les groupes BKL, les groupes du billard BKL. Mais en fait, les matrices de Cartan, il y a toute une théorie qui est portée par les matrices de Cartan, qui est la théorie des algèbres de Katz-Moody. Et donc, c'est ce fait-là qui est à l'origine de la conjecture que je vais expliquer plus tard. Mais donc, avant d'expliquer la conjecture, je dois d'abord vous dire ce que c'est qu'une algèbre de Katz-Moody. Donc je vais définir maintenant une algèbre de Katz-Moody. Alors une algèbre de Katz-Moody, c'est une algèbre qui est définie par une matrice de Cartan généralisée et qui donc l'algèbre de Katz-Moody généralise les algèbres de Lie de dimension finie que vous connaissez, qu'on connaît, qu'on étudie, en gardant une propriété essentielle de ces algèbres de finie dimensionnelle simple ou semi-simple, c'est qu'elles sont triangulaires. Elles admettent une décomposition triangulaire. Et la définition de ces algèbres de Katz-Moody que je vais donner, c'est en termes de générateurs de l'algèbre et de relations entre ces générateurs Et les relations sont toutes exprimées en termes des entiers de Cartan, donc sont déterminées par la matrice de Cartan. Donc en fait, la matrice de Cartan détermine une algèbre de Kac-Moody, comme on va le voir explicitement. Je vous donne déjà l'idée. Donc la matrice de Cartan, c'est réellement la chose à l'origine de l'algèbre de Kac-Moody. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que parfois, on utilise la notation pour désigner l'algèbre de Kac-Moody associée à la matrice de Cartan A, soit LA parce que c'est une algèbre de Lie, mais si on a oublié que c'était une algèbre de Lie et qu'on pense juste à algèbre, on met A de A. Bon. Donc c'est la même chose. Donc il y a plusieurs notations pour la même chose ici. Donc ça ne veut pas dire qu'on regarde une algèbre associative, le fait qu'on utilise A, en tout cas dans le contexte de ce, c'est transparent. Voilà. Alors quelle est la définition précise? Pour motiver la définition précise, je vais d'abord passer en revue SL3. Donc on va d'abord se rappeler comment on peut présenter SL3 en termes de la matrice de Cartan et du diagramme de Dynkin de SL3. Alors, SL3, donc c'est les matrices 3 par 3 de traces nulles. Donc je regarde l'algèbre. D'accord, c'est l'algèbre de Lie du groupe de Lie SL3 des matrices de déterminant 3 par 3 de déterminant 1. Alors, une matrice générale 3 par 3 de traces nulles, elle est paramétrisée comme ça. Donc là, juste la trace est nulle, c'est-à-dire le dernier élément, je peux l'exprimer en termes de ceci pour que la trace soit nulle. Et donc je peux le décomposer en partie triangulaire inférieure, donc avec des zéros partout ailleurs, sauf sur les nombres ici en dessous de la diagonale principale, en partie diagonale, et puis en partie triangulaire supérieure. Donc ça, c'est une identité, ceci. Et ça, c'est ce qu'on appelle la décomposition triangulaire de SL3, où n moins, donc d'abord h, la partie diagonale, c'est ce qui est la sous-algèbre de Cartan, donc ça contient les matrices diagonales de traces nulles, qui sont linéaires, bon, c'est un espace vectoriel à deux dimensions, donc ça va être combinaison linéaire de deux vecteurs que j'appelle H1 et H2, que je vais vous donner tout de suite, de deux matrices que je vais vous donner tout de suite. Et puis, N+, contient les matrices triangulaires supérieures avec 0 sur la diagonale, et N- contient les matrices triangulaires inférieures avec 0 sur la diagonale. Et donc, on peut exprimer en fait N1 en termes de vecteurs que je vais vous donner sur le transparent suivant, qui sont les vecteurs suivants. Bon, H1, ça c'est clair que ça va, toute matrice de traces nulles diagonale va s'exprimer comme combinaison linéaire de H1 et H2, donc ça forme une base de la sous-algèbre de Cartan grand H. Les matrices supérieures, triangulaires supérieures, peuvent s'écrire comme combinaison linéaire de E1, de E2 et du commutateur de E1, E2, qui va avoir juste un 1 en cette position-ci et des 0 là. Et pareil pour la partie triangulaire inférieure, toute matrice triangulaire inférieure peut s'écrire comme combinaison linéaire de F1, F2 et commutateur de F1 et F2 qui va avoir 0 ici, 0 là et un 1 ici. Donc l'espace vectoriel est à 8 dimensions, mais en utilisant les commutateurs, je peux l'engendrer à l'aide de 6 éléments qui sont H1, H2, H1, E2, F1, F2, sachant que les 7e et 8e vecteurs de base de l'espace vectoriel sont les commutateurs E1, E2, F1, F2 qui ne sont pas nuls et qui sont linéairement indépendants des vecteurs précédents. Maintenant, si vous prenez un commutateur triple, par exemple E1, E2 avec E1 ou avec E2, vous allez sortir et donc vous allez avoir 0. En d'autres termes, ceci conduit à la présentation suivante de SL3. On peut complètement on peut complètement capturer SL3. On peut dire que SL3, c'est l'algèbre de Lie engendrée par 6 éléments que je viens de décrire, qui sont sujets aux relations suivantes. Oui, j'ai parlé que de celle-ci, le fait qu'on ne pouvait pas engendrer de nouveaux éléments. Les autres relations font intervenir les générateurs déjà construits. Et en fait, on peut vérifier que ça fait intervenir la matrice de Cartan. Donc, si je ne fais pas le calcul explicite ici, c'est des matrices 3 par 3, ce n'est pas très compliqué de vérifier. Mais effectivement, les éléments de la sous-algèbre de Cartan commutent, c'est abélien. Puis la partie, les opérateurs qui montent, si je puis dire, sont des vecteurs propres de l'action de HI et les valeurs propres sont contenues dans la matrice de Cartan. Et puis ici, vous voyez que l'action adjointe de 1 sur E2 élevé à une certaine puissance, ici au carré, est égal à 0. Et en fait, le carré, c'est juste 1 moins moins 1. Bon. Comme on va comprendre pourquoi je dis ça sur le transparent suivant. Donc en fait, les relations ici s'appellent les relations de Chevalet. Elles font intervenir directement la matrice de Cartan ici. Et ces relations-ci s'appellent les relations de Serre. Elles font aussi intervenir la matrice de Cartan, même si je ne l'ai pas explicitement écrit. Mais on va voir qu'il y a manière d'écrire ceci, comme je l'ai dit, en termes de la matrice de Cartan. Et donc on voit qu'en fait, toutes ces relations sont automatiquement connues dès qu'on se donne la matrice de Cartan. Alors, qui dans notre cas, ça c'est parce qu'on a une algèbre de Lie finie dimensionnelle, est en fait définie positive. Alors, qu'est-ce que c'est une algèbre de Kasmoudi en général? Eh bien, c'est une algèbre définie par une matrice de Cartan généralisée, que je vais supposer ici inversible pour la présentation. Quand ce n'est pas inversible, c'est un tout petit peu plus compliqué. Mais comme dans le cas des billards, on a une signature lorentzienne et que ça, c'est en particulier inversible, ceci suffit pour l'exposer. Et la présentation de l'algèbre, la définition de l'algèbre, suit exactement la même présentation, le même mode, disons le même patron, que pour SL3. Donc on va avoir 3n générateurs, la matrice de Cartan étant n par n, que j'appelle H, E et F. Donc j'ai N, H, N, E, N, F. Les H vont définir la sous-algèbre de Cartan, les E vont être les opérateurs, disons, qui font monter, les F sont ceux qui font descendre, et ils sont sujets aux relations que j'ai écrites là. Alors ça, c'est les relations, ça c'est la sous-algèbre de Cartan, ça commute, c'est les opérateurs qu'on appelle parfois les opérateurs diagonaux. Les E sont des vecteurs propres de l'action diagonale, et les valeurs propres sont encodées dans la matrice de Cartan, les F aussi, c'est moins la matrice de Cartan. Un opérateur qui fait monter avec un opérateur qui fait descendre, on retape sur l'élément dans l'algèbre de Cartan. Et on a ensuite ces relations de Serre, donc peut-être qui vous disent que l'action adjointe de EI sur EJ, 1 moins AIJ fois, est égale à 0. Donc quand AIJ est égal. Alors ça a un sens parce que AIJ, donc c'est pour I différent de J. AIJ est un entier négatif, donc 1 moins AIJ est clairement positif, donc je ne dois pas vous dire ce que c'est qu'une puissance négative, c'est toujours des puissances positives. Donc voilà la présentation. Et donc vous voyez que si je vous donne la matrice de Cartan, la présentation est extrêmement simple, il suit toujours le même patron. Voilà. Donc ça veut dire la chose suivante, quand je dis que c'est une algèbre engendrée par cela, ça veut dire que les seules relations qu'on impose, c'est ces relations-là, et tout ce qui n'est pas tué par ces relations est non nul. Bon, et bien entendu aussi l'identité de Jacobi, hein, c'est un commutateur. Alors, il se fait que malgré que la présentation soit toujours la même et extrêmement simple, comprendre la structure de l'algèbre définie par ces relations pour une matrice AIJ générale s'avère être très compliqué. Et c'est encore une théorie qui est encore mal développée dans le cas général. Et donc, je vais dire des choses supplémentaires concernant ce point, mais peut-être d'abord de la terminologie. Le nombre grand N s'appelle le rang de l'algèbre, donc c'est la dimension de la sous-algèbre de Cartan. En général, on ne va pas imposer de conditions particulières de positivité sur la matrice de Cartan. On voit clairement qu'il y a une décomposition triangulaire. H est la sous-algèbre de Cartan, et N+, c'est tout ce qu'on obtient en prenant des multicommutateurs des E avec eux-mêmes, qui ne sont pas tués par les relations de Serre. Et N-, ben, ça va être la même chose du côté. Il y a une symétrie, d'ailleurs, j'en parlerai plus tard, donnée par l'involution de Chevalet. N-, c'est la partie triangulaire inférieure, qui est symétrique de ce qui se passe de l'autre côté. Alors, oui, toujours terminologie. L'avantage du fait que cette structure familière dans le cas des algèbres de Lie simple est préservée, c'est qu'on peut introduire la notion de racine. Il y a beaucoup de concepts de la théorie des algèbres de Lie simple qu'on peut directement généraliser à ce cas-ci. Par exemple, le concept de racine. Donc une racine, ça va être une forme linéaire sur l'algèbre de Cartan, donc ça appartient au dual de l'algèbre de Cartan, qui est telle qu'il existe un vecteur qui est vecteur propre non nul de l'action adjointe de parache pour la valeur propre définie par ses racines. Hein? Alors, on a évidemment les racines simples associées au EI, au générateur EI, par construction. Et donc, ça va être les entiers de Cartan qui vont apparaître ici. Et puis, on a les racines associées au multicommutateur. Si un multicommutateur n'est pas nul ici, on peut voir, en utilisant l'identité de Jacobi, que ce multicommutateur va être vecteur propre de l'action de H, n'importe quel élément de l'algèbre de Cartan, pour une valeur propre qui est la somme des racines simples correspondantes. Alors, je vais imposer la condition supplémentaire que la matrice A est symétrisable, parce que c'est ce qui apparaît dans le cas des billards. Donc, de notre point de vue, ce n'est pas une condition supplémentaire, mais dans la théorie générale des algèbres de Kac-Moody, c'est une condition supplémentaire. Et donc, on peut, en définissant les normes des racines, obtenir une matrice symétrique. Et je suppose que toutes les racines sont de carré, d'un nombre carré positif, donc de genre espace. Et donc, dans ce cas-là, on peut définir un produit scalaire dans l'espace des racines donné par juste cette matrice-là. On est arrivé avec ça. Donc nous, ce n'est pas une hypothèse supplémentaire, c'est comme ça qu'on est arrivé à la matrice de Cartan. Donc ce que je dois dire, c'est qu'en fait, ce produit scalaire dans l'espace des racines, va engendrer par dualité un produit scalaire dans H. Et si on demande que ce produit scalaire soit invariant, on peut le généraliser ou le définir, disons, sur toute l'algèbre de Kac-Moody. Mais je ne pense pas que j'en aurai besoin, donc ça n'est probablement pas défini. Enfin, je n'explique pas plus ici. Alors, une fois qu'on a un produit scalaire défini sur l'algèbre, on peut considérer, sur l'algèbre de Cartan ou dans l'espace des racines, on peut considérer trois cas, la signature de ce produit scalaire, si c'est euclidien, donc que des plus, si c'est positif semi-défini, ou si ce n'est pas dans ce cas-là. Donc euclidien, ça veut dire que la signature est strictement positive. Affine, ça veut dire qu'il peut y avoir des zéros, donc c'est positif semi-défini. En fait, en général, il n'y aura qu'un zéro. Et indéfini, c'est tous les autres cas. Donc c'est ni euclidien ni affine. Alors, dans les cas euclidien et affine sont bien connus. Attends, euclidien, c'est en fait les algèbres de Lie fini-dimensionnel, simple fini-dimensionnel que vous connaissez, donc qui ont été classés il y a longtemps. Le cas affine est bien compris aussi. Le cas indéfini est beaucoup plus compliqué. Il est beaucoup plus compliqué parce qu'il existe des racines qui peuvent être de nombre carré nul ou négatif, donc de genre temps, ce qui n'est évidemment pas le cas dans le cas euclidien. Et ces racines posent des problèmes. Donc, alors, les racines qui sont de nombre carré positives, on les appelle réelles, les autres, on les appelle imaginaires. Donc une racine imaginaire, c'est une racine dont la norme carrée est zéro ou est négative. Alors, par construction, les racines simples sont réelles, et les racines simples, on les contrôle bien. En fait, elles ont des propriétés très semblables aux racines des algèbres de Lie finidimensionnelles, qui n'ont en fait que des racines simples. La multiplicité est 1. Pour une longueur donnée, elles sont équivalentes. Par contre, les racines imaginaires sont beaucoup plus compliquées et, en général, pour une matrice de Cartan complètement quelconque, mal comprises. Elles peuvent être de multiplicité non triviale. On peut aussi avoir la propriété que si alpha est une racine imaginaire, 2 alpha, 3 alpha, un multiple de alpha est aussi une racine imaginaire, ce qui n'est pas le cas, on le sait, pour les racines simples. Simple, oui, et aussi, enfin, de manière générale, pour les racines réelles. Et donc, l'étude générale des algèbres de Kac-Moody pour une matrice AIJ quelconque est compliquée, alors que pour les matrices AIJ correspondant à une signature euclidienne, c'est bien compris, c'est la classification de Cartan. Le cas des algèbres affines est aussi bien compris, c'est les algèbres courants, mais les algèbres indéfinies sont mal comprises. Alors, dans la classe des algèbres indéfinies, on peut évidemment considérer, notamment parce qu'on contrôle très mal les racines imaginaires. Enfin, surtout parce qu'on contrôle très mal les racines imaginaires, la multiplicité, et parmi les points du réseau, quels sont ceux qui correspondent à des racines. Alors, le cas indéfini pour lequel la matrice a une signature lorentzienne ben, s'appelle algèbre de Kac-Moody-Lorentzienne. Donc ça veut dire que c'est symétrisable et que la matrice SIJ des produits scalaires est de signature lorentzienne. Et parmi les algèbres de Kac-Moody-Lorentzienne, il existe un cas qui correspond à notre cas hyperbolique des groupes de Coxeter, alors dont la définition est un peu technique ici, et je ne vais pas démontrer cette propriété au cours, mais la définition technique, c'est que si on regarde le diagramme de Dinkin de l'algèbre lorentzienne et qu'on lui enlève un nœud du diagramme de Dinkin, eh bien le diagramme de Dinkin obtenu correspond à une somme, bon, il peut être en deux morceaux, mais alors chaque morceau est soit fini ou affine. Et comme on connaît la classification des finis ou des affines, c'est un critère qu'on peut appliquer. Dans ce cas-là, on dit que l'algèbre de Kac-Moody est hyperbolique. Et une des raisons pour laquelle on utilise cette terminologie, c'est que si on regarde le groupe de réflexion correspondant, et on va voir qu'il y a un groupe de réflexion qu'on peut définir, qui est le groupe de Weyl, et que ça va correspondre au groupe de Coxeter du billard, ils ont un domaine fondamental qui est précisément le billard qu'on a obtenu, à savoir un simplex de volume fini de Coxeter. Et donc les deux définitions sont équivalentes, même si je ne vais pas démontrer ça ici dans l'exposé. Alors on peut montrer, je vous l'avais déjà dit en regardant les groupes de Coxeter hyperboliques basés sur un simplex, qu'il y en avait pas beaucoup, enfin que ça s'arrêtait. Le rang maximal c'est inférieur ou égal à 10, et on n'a que 4 algèbres hyperboliques en rang 10. 4 alors que je vous avais dit qu'il n'y avait que 3 groupes de Coxeter. C'est parce qu'un des groupes de Coxeter a un MIJ qui est différent, qui est égal à 4. Et là, on sait qu'il y a 2 choix possibles alors pour les longueurs relatives des racines. Je montrerai ça plus tard. Enfin, explicitement, je le montrerai plus tard, mais je peux déjà vous le dire maintenant. Je vous avais dit qu'il y a 3 groupes de Coxeter hyperboliques, mais des algèbres hyperboliques correspondantes. Il y a réellement 4 matrices de Cartan correspondantes qui diffèrent par le choix des normes relatives lorsque l'exposant est égal à 4. Et je montrerai les diagrammes de Dinkin tout à l'heure. Mais en fait, je voulais dire, mais je le dis plus tard, les algèbres hyperboliques de Kac-Moody ont été complètement classés il y a un certain temps, et je vous donnerai la référence plus tard. Alors, parmi les algèbres de Kac-Moody-Lorentzienne, il en existe une classe particulière, intéressante, et en fait qui est directement relevante pour les billards, qu'on appelle les doubles extensions d'algèbres de Lie simple. Et donc je vais vous donner la construction de ces doubles extensions. Et donc je pense que la terminologie est due à Bernard, Overextension of Simple Lie Algebra, et voilà comment on construit ça. On part d'une algèbre de Lie de dimension finie, simple, donc une des algèbres de Lie qui rentre dans la classification de Cartan, qu'on connaît, de rang R, j'appelle les racines simples alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha R. Je normalise les racines, c'est la convention traditionnelle, mais je vais l'utiliser ici explicitement, donc je le rappelle. Les racines de telle sorte que les racines longues ont une longueur carrée égale à 2. Et donc, si elles sont toutes de même longueur, elles sont donc toutes longues. C'est le cas simplement lacé. Sinon, il y en a qui ont des longueurs différentes et qui sont courtes, soit 1 pour les B et les C, soit 2 tiers pour G2. Et pour F, 4, soit 2 tiers pour G2. Alors, on sait que pour toute algèbre de Lie simple, on peut introduire on peut toujours associer la notion de hauteur, d'ailleurs, pour toute algèbre de Kac-Moody. Donc, en particulier, on peut parler de la notion de hauteur d'une racine, qui est en fait, quand je l'exprime en termes des racines simples, c'est la somme des coefficients de la hauteur. Et donc, et parmi. C'est évident qu'il y en a une dans le cas des algèbres de Lie simples. Parmi toutes les racines, il y en a une qui a la plus grande hauteur, la plus haute. On peut montrer que c'est une racine longue, donc de longueur 2. Et, oui, ça je ne l'ai pas dit, mais on peut montrer aussi que son produit scalaire avec toutes les racines simples est strictement positif. Alors, on va ajouter à L, et donc on fait l'extension, Un espace de Minkowski a deux dimensions. Et je vais prendre je prends la base comme ça, donc c'est deux vecteurs nuls dont le produit scalaire est égal à 1. Et je considère maintenant l'espace vectoriel obtenu en prenant la somme directe. Alors dans M2, j'ai une métrique définie positive, signature euclidienne, mais j'ajoute quelque chose qui a une signature moins 1 plus 1. Donc au total, je vais avoir clairement un espace qui a la signature minkowskienne. Le moins étant apporté par M2. Mais il apporte aussi un plus. Et je vais considérer maintenant de travailler dans cet espace-ci. Donc ça va être l'espace des racines de mon algèbre de Lie doublement étendue. Et comment j'ai introduit ces racines supplémentaires? J'ai introduit alpha 0 comme étant... Donc ça fait intervenir les nouveaux vecteurs U moins la racine la plus haute, et alpha moins 1, c'est juste la moins U moins V. Et on peut montrer que si vous regardez la matrice de Cartan correspondante, enfin c'est bien une matrice de Cartan, donc si vous formez les produits scalaires, maintenant on sait qu'on avait une matrice de Cartan au départ, mais j'ai introduit alpha 0 et alpha moins 1, donc il faut s'assurer que les produits scalaires vont bien être donnés par des entiers en introduisant le 2 sur la longueur des racines. On peut montrer que ça va bien définir une matrice de Cartan. Donc le produit scalaire, c'est entre U et V, c'est celui que je vous ai donné, et U et V sont orthogonaux à L. Hein. Et donc on appelle ça la double extension. Donc la matrice de Cartan ainsi étendue va me définir une nouvelle algèbre de Lie, de Kasmoudi, qu'on appelle la double extension de L. Alors la racine alpha s'appelle la racine affine parce que c'est la racine affine, pour ceux qui connaissent la théorie des algèbres affines. En fait, c'est les algèbres non twistées. Donc à partant de L, on peut n'introduire que alpha 0 et on aura l'algèbre affine non twistée associée à L. Dans le cas de E8, on l'appelle E9 ou E8+, par exemple. Et puis la racine alpha moins 1, c'est celle qui définit la double extension. Et on a clairement que le rang de L++, puisqu'on a élargi de 2 la dimension de l'espace vectoriel, c'est le rang de L+2. Et en général, d'ailleurs, ça va au-delà de le cas affine, puisqu'on a une signature hyperbolique et une signature lorentzienne. Pardon. Alors, pour l'information, on peut faire ça pour toutes les algèbres donc de classiques, hein. AK, BK, CK, DK, et on trouve que parmi ces algèbres, AK++ est hyperbolique sauf à partir de 7. Donc ça veut dire que, on va faire la connexion avec le billard, mais ça veut dire que le billard correspondant sera de volume fini jusque pour la valeur correspondante 9, hein, le rang sera 9 dans ce cas-là, et puis au-delà plus. Par contre, pour les BK, DK et EK, on ira jusqu'à 10, jusqu'à un rang égal à 10. Donc en fait, on en a 3 déjà ici qui sont hyperboliques, qui sont juste des doubles extensions non twistées d'algèbre de Lie simple. Lorsque K est égal à 8, celle-ci, celle-ci et celle-ci, vous voyez bien que ça s'arrête au rang 10. Il n'y a rien au-delà de cette double extension qui est hyperbolique au-delà du rang 10. Mais ça, on le savait, c'est la théorie générale qui le dit. Et voyez, juste pour information, c'est la référence que je voulais donner, la liste de toutes les algèbres de Kasmoudi hyperboliques peut être trouvée dans cet article-là. Je crois qu'il y avait quelques petites fautes de frappe, mais disons, la liste est complète. Voilà. Et donc en particulier, je risque d'oublier de le dire plus tard, mais il se fait que la gravitation pure est basée sur, fait apparaître comme groupe de Coxeter et donc comme algèbre de Kasmoudi, les algèbres AK++, et vous voyez donc que ça s'arrête un cran en dessous de EK, par exemple, pour être hyperbolique. Donc ça explique pourquoi le KOBKL disparaît pour la gravitation pure en dimension 10. Alors, voilà des exemples. Pour la gravitation pure, justement, mais à dimension d'espace-temps 4, on a A1++, et donc si je pars de A1, la racine affine 0, elle est connectée comme ceci à A1, et puis la double extension est là. Et donc, je pense que c'est une algèbre qui a été écrite explicitement pour la première fois par Bernard en étudiant le groupe de Geroch qui serait caractérisé par ceci. Et ceci a été conjecturé. Sachant que Ehlers, le groupe qui apparaît en réduction, je reviendrai là-dessus plus tard, en dimension 3, quand on fait la réduction dimensionnelle en dimension 3, c'est un. Alors pour le cas de E8, donc E8, c'est ceci, on s'arrête là, donc ça justifie la convention de tout à l'heure. On a la racine affine et puis la racine doublement étendue. Pour les B, donc là on sait aussi que c'est hyperbolique en rang 10, donc ça c'est c'est B8, hein, la racine affine de B8, et puis la racine doublement étendue. Alors, soit dit en passant, si je considère la matrice de Cartan associée au diagramme de Dynkin où j'inverserais la flèche ici, donc je transposerais là où j'ai un moins 2 et un moins 1, j'obtiens une algèbre hyperbolique, mais elle n'est pas dans la liste des doubles extensions que je vous ai données. En fait, c'est aussi l'extension d'une algèbre affine, mais l'algèbre affine est ce qu'on appelle twistée. En fait, elle est parfois notée A2,15, donc ce serait A2,15+, mais je pense que dans d'autres auteurs, utilisent la notation C8,2. Bon. C'est lié à 15 par une involution, par un twist, c'est pour ça que cette notation, c'est ça, je pense que ça c'est la notation de Katz, mais d'autres auteurs utilisent d'autres notations, peu importe. C'est juste la flèche inversée, mais ça n'est pas une double extension non twistée d'une algèbre de Lie simple. Pour D, alors pour D8, qui est aussi une algèbre hyperbolique, on part de D8, ça c'est le diagramme de Dynkin de D8, on ajoute l'algèbre affine, la racine affine. Donc là, il faut aller voir évidemment comment elle est connectée aux autres racines, la racine la plus haute, mais c'est comme ça. Et puis, on met la double extension. Et donc, en fait, il se fait, puisque je vois que j'ai écrit ça, donc là, le B8, je l'ai déjà mentionné, qu'en fait, D8++ apparaît dans une théorie de supergravité. C'est la supergravité pure à 10 dimensions n égale 1. Alors, pour aller de l'avant, j'ai besoin d'introduire la notion d'involution de chevalet. Alors, l'involution de chevalet, bon, on a vu qu'il y avait une symétrie par construction entre racine positive et racine négative, ou partie positive de l'algèbre et partie négative de l'algèbre. On a cette décomposition triangulaire. Et on peut encoder cette symétrie, si je puis dire, par le fait qu'il y a une involution, un automorphisme qui est l'involution de chevalet, qui est définie comme ça. Donc, ça. Sur les H, ça change de signe, mais sur les E, ça envoie E sur F, et ça envoie F sur E, bon, avec un changement de signe, pour préserver les relations de commutation, pour que ce soit un automorphisme de l'algèbre. Et donc, vous voyez clairement que ça va échanger partie positive et partie négative. Et il existe une sous-algèbre qui est invariante par cette involution. Alors, elle ne va pas contenir H, puisque les H changent de signe, mais vous voyez que si vous prenez la combinaison linéaire E-F, puisque E est envoyé sur moins F et que moins F est envoyé sur E, ben E-F va être invariant. Donc, si vous regardez l'algèbre engendrée par ceci, elle est invariante sous l'involution de chevalet. Et pour des raisons qui sont basées sur l'analogie avec le cas finidimensionnel, on va l'appeler la sous-algèbre compacte maximale. Ou surtout, on va la noter K de A. Donc, on va introduire K de 10, par exemple, qui est de la sous-algèbre invariante par cet automorphisme, dans le cas de. En effet, dans le cas des algèbres de Lie finidimensionnelles, on obtient. Donc, si je prends la forme déployée, si que je regarde l'algèbre invariante par ça, ce sera bien l'algèbre compacte maximale. Alors, encore un concept que je dois introduire et puis on va revenir au billard. Donc ici, je vous fais simplement la théorie générale, enfin, je ne fais pas la théorie générale, mais je vous fais une théorie limitée aux aspects qui nous intéressent, les algèbres de Kac-Moody. Mais on a un peu perdu de vue les billards, je vais y revenir bientôt. Alors, le groupe de Weyl de l'algèbre, c'est un groupe qui agit dans l'espace des racines et qui, donc dans le dual de l'algèbre de Cartan, et qui est défini simplement comme étant le groupe engendré par les réflexions dans les murs orthogonaux aux racines simples. Donc on va avoir une réflexion de Weyl fondamentale pour chaque racine simple, obtenue en considérant la réflexion correspondante, et tous les produits de ces réflexions. Et donc on peut montrer qu'en fait, ça va contenir en particulier aussi les réflexions dans les murs orthogonaux à toutes les racines réelles. Et il se fait, donc ça c'est le premier point de comparaison entre l'analyse de BKL et les algèbres de Kac-Moody, enfin premier point où les algèbres de Kac-Moody apparaissent, c'est que les billards de BKL définissent toujours un groupe, on a observé que c'était un groupe de Coxeter basé sur un simplex cristallographique, qui est en fait le groupe de Weyl d'une algèbre de Kac-Moody. Bon, ce n'est pas une grande surprise, puisque là, on a une matrice de Cartan, et donc on peut considérer l'algèbre de Kac-Moody correspondante, et le groupe de Weyl de cette algèbre de Kac-Moody va être en fait le groupe de Coxeter dont on est parti. Et en particulier, les murs du billard vont coïncider avec les murs orthogonaux aux racines simples, et le billard va coïncider avec la chambre fondamentale de Weyl du billard. De l'algèbre. Alors, parmi toutes ces algèbres dont je vous ai parlé, donc, il y en a 4 qui sont hyperboliques, 3 correspondent à des doubles extensions non twistées d'algèbres de Lie simples, et le cas E8 conduit à E10. Et E10 est particulièrement intéressant, puisqu'il, comme on va voir, c'est lié à la supergravité maximale, mais mathématiquement, il est intéressant aussi. Il est intéressant mathématiquement, non seulement parce que c'est hyperbolique, c'est une des 4 algèbres de Kac-Moody hyperboliques. Et si je regarde le réseau des racines de 8, il est aussi particulièrement intéressant. Bon, il est lorentzien, ça c'est évident, mais il est autodual et pair. Et c'est en fait des structures qui, du point de vue des réseaux, ça n'arrive pas souvent, donc c'est déjà exceptionnel de ce point de vue-là aussi. Et bien sûr, il fait partie de la famille des algèbres de Lie exceptionnelles, donc il commence avec E6, E7, E8 et on continue. Donc E10 est très particulier, le suivant E9 est affine, donc E10 est le premier, disons, de signature lorentzienne dans la série, et en plus il est hyperbolique et il a ses belles propriétés. Donc c'est une structure qui, pour cette raison, a fasciné à la fois les mathématiciens et les physiciens, même si ça reste. La fascination reste, mais je pense que la compréhension n'augmente pas énormément, malheureusement. Alors, le diagramme de Dynkin, je l'ai déjà noté, c'est celui de 8 augmenté par la racine affine, puis la racine doublement étendue. Voici la matrice de Cartan. Donc, vous voyez que c'est effectivement plus économe d'écrire les choses sous forme de diagramme de Dynkin. Il y a le même contenu d'information, mais il y a beaucoup de zéros qui sont simplement représentés ici par le fait qu'il n'y a pas de ligne correspondante. Alors, que dire encore? Oui, juste pour information, lié à E10 de manière... Bon, finalement, on a toute la série, on a E11, on a E12, on a E13. Alors là, je vois que j'ai changé la numérotation, ce qui n'est pas une bonne idée. J'aurais dû garder la même numérotation, et alors la racine 11, c'est celle-ci. Donc on ajoute encore une racine dans ce sens-là. Et puis 12, 13, 14, on peut continuer. Mais j'ai mis E11 ici parce que E11 a été aussi conjecturé d'être une symétrie ou d'être important pour la compréhension de la symétrie de la M-théorie. E11 aussi organise certaines propriétés des racines, comme Bernard l'a montré il y a un certain temps. Et donc voici E11. Bien, alors la question c'est qu'est-ce que ça a à voir avec les billards? Donc je vous ai parlé des algèbres de Kac-Moody, j'ai développé un certain nombre de propriétés de ces algèbres de Kac-Moody. La question, c'est en quoi c'est lié au billard. On a vu que, naturellement, les billards conduisent à une matrice de Cartan, en tout cas. Hein? Oui ?
Est-ce que tu peux nous rappeler à quel moment on passe de la matrice symétrique des murs à la matrice de Cartan ? Il y a un choix ?
Oui, donc ça, c'est la matrice de Cartan, c'est parce que ça préserve un réseau. Donc une fois qu'on a la matrice symétrique, ça préserve un réseau. Et donc, la matrice de Cartan, elle encode les entiers de Cartan qui sont associés aux réflexions, en fait. Et ce sont des entiers parce que, justement, ça préserve un réseau. Et donc, la manière dont on passe... Alors, le lien est 1-1 quand les entités coxétaires qui associées au groupe de coxétaires sont 2 ou 3, et on n'a pas d'ambiguïté. Quand il y a une ambiguïté, il faut aller regarder, il faut utiliser la métrique de Witt pour savoir dans quel cas on est. Et donc c'est en utilisant les propriétés de la supermétrique de Witt et les murs qui sont donnés par la théorie de Lagrangien. En fait, on est directement du Lagrangien, de l'Hamiltonien, qu'on arrive à la matrice de Cartan. Donc je ne sais pas si ça répond à la question ou tu voulais quelque chose de plus. Pas tout de suite. Bien. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que on obtient des billards à la limite PKL, et en fait, et on obtient donc des groupes cristallographiques de coxétaires, on obtient une matrice de Cartan qui contient tous ces entiers de Cartan associés au réseau préservé par le groupe du billard. Et il se fait qu'il y a un lien très étroit entre cette matrice de Cartan et les groupes de symétrie cachée qui ont été découverts il y a un certain nombre d'années par Kremer et Julia lorsqu'ils ont étudié la réduction dimensionnelle sur un tore de la supergravité maximale, et en fait déjà peut-être Ehler d'une certaine manière pour la gravité pure à 4 dimensions avait aussi trouvé de manière inattendue une symétrie en dimension 3. Alors si, et là, quelle est la connexion? Eh bien si le groupe de coxétaires du billard est toujours décrit par, enfin c'est toujours le groupe de Weyl de G++, donc de l'algèbre de Lie doublement étendue, où G est l'algèbre est le groupe de symétrie cachée. Bon, je devrais dire algèbre, mais j'ai utilisé le langage groupe puisque je travaille qu'au niveau algèbre, donc je n'ai pas tellement envie de parler du groupe. C'est une histoire compliquée et je n'ai pas le temps d'entrer dans ces considérations. Donc parlons de l'algèbre. Donc G est, même si je vais utiliser la terminologie groupe, donc l'algèbre de symétrie cachée qui apparaît si on fait la réduction dimensionnelle de la théorie gravitationnelle avec les champs de matière à 3 dimensions. Donc on sait que si on part de la supergravité pure, par exemple, maximale, pardon, à 11 dimensions, qu'on fait la réduction dimensionnelle jusqu'à 4, on obtient E7. Si on va jusqu'à 3, on obtient E8. Eh bien, je dis le groupe de billard, ce sera, puisqu'à 3 on obtient E8, E8++. Si vous prenez une autre théorie qui donne D8 à 3 dimensions, vous aurez pour billard D8++. Si vous obtenez B8 à 3 dimensions, ce sera B8++. Si vous obtenez A8 à 3 dimensions, ce que vous auriez pour la gravitation pure, vous aurez A8++. Donc le billard est toujours connecté de manière très étroite au groupe de symétrie qui apparaît à 3 dimensions par réduction toroïdale. Donc c'est ce que j'ai noté ici. Hein ? Et on sait qu'à 3 dimensions, si on écrit de Lagrangien correspondant, G est un vrai groupe de symétrie. Donc il y a vraiment une invariance du Lagrangien. Par contre, G++, lui, il apparaît de manière un peu indirecte. Il est plus grand, donc ça, il est intéressant de ce point de vue-là, puisque il est même énormément plus grand, même si le rang n'est que 2 en plus. Donc c'est des groupes hyperboliques extrêmement intéressants, mais le lien avec les symétries n'est pas direct. Donc ici, il y a déjà un premier lien très indirect, puisque c'est G++, hein, le groupe qui apparaît, c'est G++ chaque fois, mais ça ne veut pas dire que G++ est un groupe de symétrie. Néanmoins, basé sur cette évidence et sur d'autres considérations qui avaient déjà été émises précédemment, il a été conjecturé que G++ pourrait être en fait un groupe de symétrie déjà du Lagrangien de départ. Et ça ne se voit pas au niveau du Lagrangien de départ, de la même manière qu'en fait le groupe G lui-même ne se voit qu'après réduction dimensionnelle, ça ne saute pas aux yeux en dimension de départ. La conjecture a été faite, basée là-dessus, que peut-être le Lagrangien de la supergravité maximale, étendu éventuellement en contenant d'autres champs si nécessaire, donc c'est aussi une théorie, mais ça devient un peu imprécis à ce niveau, aurait une invariance, donc beaucoup plus grande que celle qu'on voit, donc c'est pour ça qu'on parle de symétrie cachée, qui serait G++, donc, c'est-à-dire la symétrie que quelque part le billard nous donne lève un petit pan sur G++, eh bien on dit que c'est un signe que G++ est symétrie de la théorie. Donc là, évidemment, ça devient conjectural. Le fait que G++, ou le groupe de Coxeter associé, ou le groupe de Weyl associé à G++, apparaît à la limite BKL, c'est relativement solidement établi. Le fait que c'est ce que ça veut dire, qu'il y a une symétrie infinidimensionnelle caractérisée par G++, c'est une conjecture. Donc il y a un gap entre les deux. Donc mes cinq précédents exposés, disons, étaient non conjecturales, et les conjectures apparaissent maintenant. Donc je vais vous dire, être un petit peu plus précis, à propos d'une approche à cette conjecture. On en a entendu déjà d'ailleurs dans des séminaires précédemment. Et donc ici, je vais vous parler de ça maintenant. Alors, donc, dans le cas de la supergravité maximale, comme je l'ai dit, à trois dimensions, on a E8, donc l'algèbre de Kac-Moody qui serait relevante, qui décrirait la symétrie, c'est E8++, aussi noté E10. Et donc la conjecture, c'est que le Lagrangien de la supergravité à 11 dimensions peut être augmenté par des champs supplémentaires judicieusement choisis et qui n'apparaissent pas à certaines limites, est invariante sous E10, ou peut-être même sous une symétrie qui contient E10. Alors, comment on essaye de vérifier cette conjecture ou d'avancer dans la démonstration de cette conjecture? On revient au billard. Donc, ce que la dynamique du billard nous montre, la dynamique des billards, c'est les facteurs d'échelle. Et les facteurs d'échelle, on a vu que c'était associé directement à la sous-algèbre de Cartan, à la partie diagonale. C'est comme ça qu'on avait introduit en fait ces facteurs d'échelle. Et donc on peut voir les facteurs d'échelle comme définissant un élément de la sous-algèbre de Cartan. Et donc le billard, c'est la dynamique des degrés de liberté de la sous-algèbre de Cartan. Alors, c'est loin évidemment de la dynamique complète, mais en tout cas, on peut voir ça comme effectivement dynamique de la sous-algèbre de Cartan, de l'algèbre de Kac-Moody, dont on essaye de démontrer quelle est l'algèbre de symétrie. Donc la question, si on dit ça comme ça, c'est est-ce qu'on peut aller au-delà des degrés de liberté de Cartan et inclure tous les autres éléments de l'algèbre de manière à rendre cette symétrie manifeste. Donc de ce point de vue-ci, on dirait si on tronque à la sous-algèbre de Cartan, on ne voit plus la symétrie complète, on ne voit plus que le groupe de Weyl, mais si on avait gardé toutes les variables non diagonales, donc en dehors de l'algèbre de Cartan, peut-être on peut voir la symétrie de manière manifeste. Alors, comment on essaye de mettre ça en évidence? On se base sur ce qui a déjà marché, c'est que si on fait la compactification sur le tore à trois dimensions, on obtient que les champs scalaires forment la variété G, dont l'algèbre de Kac-Moody sera G++, rappelez-vous, hein, donc ce sera la double extension, G sur K de G, ou K de G, l'algèbre compacte maximale de G. Et donc, pour démontrer la conjecture, une approche a été, la suivante, a été de dire, eh bien, on va prendre comme dynamique la dynamique du modèle sigma non linéaire E10 sur K de E10, donc E8++ sur K de E8++, dans le cas de la supergravité maximale. On peut écrire dans le contexte des modèles sigma non linéaires, comme ici, un Lagrangien qui est manifestement E10 invariant. Hein, et donc je vais en dire quelques mots dans un instant. Et on va supposer que la dynamique est décrite par ce modèle sigma non linéaire, alors je vais expliquer pourquoi, à 1 plus 0 dimension. Donc on a une dimension de temps et 0 dimension de space, parce qu'en quelque sorte, quand on passe à la limite BKL, les gradients sont importants, parce qu'ils définissent les murs, mais jouent un rôle, disons, secondaire par rapport aux variables diagonales. Et donc c'est naturel de. Et donc on voit que c'est essentiellement le temps qui est la variable importante. Alors, bon, donc ça c'est encore très imprécis, donc soyons un tout petit peu plus précis. Mais on va tout être plus précis, c'est de comparer le Lagrangien du modèle sigma non linéaire E10 sur K de E10, là il y a une règle pour l'écrire, avec la dynamique de la supergravité, donc avec la dynamique des champs de la supergravité. Alors avant de comparer la dynamique, je dois parler des champs qui apparaissent dans le modèle sigma non linéaire et voir si ces champs, ces variables ont l'air d'avoir quelque chose à voir avec les variables de la supergravité. Et donc, pour ça, il faut être capable de comprendre les champs qui apparaissent. Alors, dans ce modèle quotient-ci. Alors, il est clair que... oui, il y a plus... que ce que je veux obtenir comme champ... donc ici, je vais avoir une variable pour chaque élément ici dedans. Et donc, j'ai clairement, quand je prends le quotient par K de G, rappelez-vous, K de G est engendré par E moins F. Donc, prendre le quotient, c'est-à-dire que F est égal... Enfin, c'est chaque fois qu'on voit un F, le remplacer par un E, si vous voulez. Et donc, hein, techniquement, on peut faire ça comme ça. Et donc, il va rester plus que les H et les E. Et pas uniquement les E associés aux racines simples. Hein. Donc là, j'aurais dû mettre E alpha, donc toutes les racines positives. Et donc, les variables qui vont apparaître dans ce modèle quotient vont être... Pour chaque élément de Cartan, je vais avoir une variable. Et puis pour chaque racine positive avec sa dégénérescence, parce que j'aurai des racines positives imaginaires, apparaît aussi une variable. Donc j'ai un nombre infini de variables ici, comme mon algèbre est une algèbre de Kac-Moody, puisque j'ai un nombre infini de racines positives. Donc je suis désolé, la notation, j'aurais dû écrire E alpha, où alpha est une racine positive quelconque, pas uniquement les simples, hein, donc c'est pas I. Alors, je vous ai dit, on comprenait très mal les racines, donc il faut avoir un principe qui organise un peu les racines pour avoir un petit peu, pour avoir un contrôle des champs, des variables qui apparaissent associées à ces racines positives. Et le principe organisationnel, c'est d'utiliser, c'est d'utiliser, d'introduire la notion de niveau et de classer, d'ordonner les racines selon le niveau. Alors, qu'est-ce que c'est le niveau ? Ben, vous voyez que cette racine-ci, c'est une racine en quelque sorte exceptionnelle. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on appelle parfois la ligne de gravité. C'est une algèbre A. Et donc, toute racine positive va contenir un certain nombre de fois cette racine, un certain nombre de fois chacune des racines simples, et aussi un certain nombre de fois la racine exceptionnelle. Et le coefficient ici, on va l'appeler le niveau. Et donc l'idée est d'organiser les racines selon le niveau, c'est-à-dire le nombre de fois que la racine exceptionnelle apparaît. Et donc, les champs vont être aussi organisés selon le niveau. Alors, puisque ceci, c'est l'algèbre de Lie à 9, c'est-à-dire SL10, mais puisqu'on a aussi, on peut montrer qu'il y a un dégénérateur de Cartan qu'on peut ajouter, et donc on a réellement une invariance GL10, défini par cette saute algèbre, on va avoir automatiquement, en organisant les racines par le niveau, une invariance, une covariance GL10 automatique. Donc les variables vont automatiquement former des représentations de GL10. Alors ce qu'on a, c'est dans le modèle sigma non linéaire, on aura la représentation adjointe. Et donc, on peut regarder les choses par niveau. Et au niveau 0, donc les champs qui apparaissent, en fait, c'est les champs associés. Donc le niveau 0, ça veut dire on ne regarde que les racines qui ne contiennent pas alpha 10, donc qui ont cette forme-ci. C'est en fait des racines de SL10. Donc on va avoir les champs de la représentation adjointe de SL10. Et donc, en fait, mais quotienté par le compact, hein, donc on obtient le graviton. On a vu que les matrices symétriques, c'était c'est GL10 sur SO10. Et donc, c'est ce qui apparaît ici. Donc, le SO10, c'est ce qui reste quand on prend le quotient par K de E10. Donc, ici, on va avoir le graviton au niveau 0. Et puis, au niveau 1, c'est quoi le niveau 1 ? C'est les racines qui ont un coefficient L égale 1. Donc, elles vont former aussi, elles se transforment entre elles sous GL10. Et donc les champs correspondants, en fait oui, peut-être on peut le voir tout de suite ici, comme cette racine s'attache au niveau 3, ça va être associé à des trois formes, c'est-à-dire à des tenseurs à trois indices complètement antisymétriques. Donc on va avoir un tenseur antisymétrique à 3 indices. Et puis le niveau 2, donc 2 fois la racine exceptionnelle, on va avoir un tenseur antisymétrique à 6 indices, qu'on peut interpréter comme étant dual du précédent. Et puis au niveau 3, on va avoir un tenseur mixte, on peut montrer que la covariance... Donc on classe les choses et c'est quelque chose d'automatique. Hein, il suffit d'étudier, de regarder, mais donc il n'y a rien de compliqué, c'est de l'analyse tensorielle. On classe les racines qui apparaissent au niveau 3, et les champs qui apparaissent au niveau 3, et on regarde quelle représentation apparaît. Mais en fait, c'est juste la représentation mixte. Donc ceci, c'est le tenseur de Young. Ça veut dire une colonne de 8 boîtes et à côté une boîte. Et en fait, on sait que, point de vue dynamique, je n'ai pas encore parlé de la dynamique, donc j'anticipe un petit peu, ce tenseur-là, c'est le dual du graviton. Que si on peut, il existe une description duale de la gravitation, en tout cas au niveau linéarisé, où au lieu d'avoir un tenseur symétrique, comme j'ai AB, on a un tenseur de ce type-là. Donc ça a été construit il y a très longtemps par Cartwright. La première constatation, c'est que les variables qui apparaissent, les champs ici, ce n'est pas encore des champs, ils dépendent que de T, mais j'anticipe un petit peu. Les champs, vu comme, qui apparaissent ici, c'est exactement ceux de la supergravité, mais où on a à la fois un champ apparaît chaque fois avec son dual. Hein, on a la métrique et la trois formes, et puis on a leur dual, leur variable dual. Donc, c'est encourageant. Mais évidemment, on a beaucoup plus de champs. On a des choses au niveau 4, au niveau 5, au niveau 6, au niveau 7. Ça ne s'arrête jamais puisqu'on a un nombre infini de champs. Et donc, ces champs sont moins bien compris. Mais donc, l'hypothèse qui avait été faite initialement, c'est que parmi ces champs supplémentaires se trouvent, et on peut compter et voir que, en tout cas, du point de vue SL covariance GL10, il y a la place pour avoir tous les gradients spatiaux des variables qui sont ici. Donc on aurait non seulement ces champs, mais aussi tous leurs gradients spatiaux successifs, donc il y aurait de plus en plus d'indices, et donc c'est une certaine manière de cette... comme cela qu'on reconstruit l'espace. On a le temps de manière explicite, puisque c'est un modèle sigma non linéaire où le temps T apparaît comme une variable, et l'espace apparaît à travers les gradients et ces gradients sont des champs associés aux représentations de GL10 de niveau plus élevé. Alors, donc ça c'est purement cinématique en un sens. Donc on peut aussi regarder maintenant ce que les équations du modèle sigma non linéaire impliquent et les comparer aux équations de la supergravité. Il y a de nouveau quelque chose qui marche très bien et puis quelque chose qui est mal compris. Ce qui marche très bien, c'est que il faut comparer évidemment des équations où les choses ne dépendent que du temps à des équations où on a des champs. Alors, pour les comparer, d'autre part, on a une infinité de variables du côté du modèle sigma non linéaire, on a un nombre fini de variables du côté supergravité. Donc, pour faire la comparaison, on va se limiter à un nombre fini de variables du côté du modèle sigma non linéaire, donc les premières racines. Mais ça veut dire qu'on laisse tomber toutes les dérivées spatiales, puisque les niveaux plus élevés correspondent à dérivées spatiales, ce qui veut dire que du point de vue supergravité, du côté supergravité, si on veut comparer, il faut laisser tomber des dérivées spatiales, c'est-à-dire supposer qu'il y a certaines homogénéités spatiales, soit que la métrique est homogène, soit que les courbures sont homogènes. Donc c'est peut-être la métrique homogène, ça peut être un peu fort, mais on peut supposer que le champ électrique et magnétique soient homogènes, donc ça n'implique pas que le potentiel soit homogène. On a le potentiel de la trois formes. En premier temps, on peut supposer qu'il est homogène, ça veut dire que les champs électriques sont homogènes, mais alors on n'a pas de champ magnétique. On peut passer au cran suivant, supposer qu'il y a des champs magnétiques non nuls, donc ça veut dire qu'il y aura quand même certains gradients spatiaux de la trois formes, sinon le champ magnétique serait nul, mais qui sont eux-mêmes homogènes. Donc, en un sens, introduire les champs magnétiques, c'est déjà avoir des gradients spatiaux dont on tient compte. Et donc, si on se limite au premier niveau, et on peut même inclure le dual du graviton qui est lié à la connexion de spin jusqu'à un certain point, si on se limite au premier niveau, on peut montrer, donc en faisant cette troncation du côté modèle sigma, c'est-à-dire on se limite au niveau, et cette troncation du modèle de supergravité, c'est-à-dire qu'on suppose des conditions d'homogénéité, on peut montrer que les équations sont exactement les mêmes des deux côtés. Et qu'en particulier, et donc ça c'est au-delà du billard. Donc je vous avais dit pour le billard, les termes de Chern-Simons ne jouent pas de rôle, parce que ce qui va compter, c'est que les racines simples. Les racines simples, elles sont de niveau, par définition, 0 ou 1 pour la racine, quand ça contient la racine, pour la racine exceptionnelle. Donc on peut aller plus loin. Et donc ça veut dire qu'on va au-delà de l'approximation BKL. Alors si on va au-delà de l'approximation BKL, il faut être prudent cette fois-ci sur les termes de Chern-Simons, etc. Et donc là, on peut le faire. Et si on le fait, on voit qu'en particulier le modèle, le coefficient du terme de Chern-Simons, qui vient d'ici, hein, du modèle sigma non linéaire, qui est associé à des racines qui ne sont pas des racines simples, mais dont le niveau est toujours en dessous de 3, ou égal à 3, ce coefficient donc, prédit par le modèle sigma non linéaire est en particulier exactement le même que celui qui vient de la supergravité et qu'on fixe en invoquant la supersymétrie. Donc il y a des choses qui marchent bien. Mais il y a des choses qui marchent moins bien, ou en tout cas qu'on comprend moins bien, je vais dire. Donc, des hypothèses directes, en essayant d'identifier directement ces champs au gradient, par exemple, ça ne marche pas. Donc, on pense que c'est une redéfinition plus compliquée qu'il faut faire lorsqu'on veut comparer la supergravité au modèle sigma non linéaire, lorsqu'on va plus loin que le niveau 3 de ce côté-ci, et lorsqu'on on ajoute des dérivés, donc on est de moins en moins homogène de ce côté-ci. Mais... peu de progrès ont été effectués depuis, selon cette voie, depuis que la conjecture a été faite. Donc il y a des choses qui marchent très bien et qui marchent, comme disait quelqu'un, trop bien pour être complètement fausses, mais la conjecture n'a pas encore été démontrée. Donc c'est pour ça que je vous disais que, alors que la limite BKL, les billards sont bien établis, sont des choses, le groupe de Coxeter. Le fait que ce soit cristallographique, etc., c'est quand même très interpellant, parce qu'un groupe de Coxeter quelconque n'est pas basé sur un simplex, ne sera pas hyperbolique, ne sera pas cristallographique, mais c'est ça qu'on obtient. Donc ça, c'est bien établi. La connexion avec les symétries cachées est moins claire. Et ceci est pour anticiper, mais avec une inversion du signe de la flèche du temps, le séminaire de la semaine passée. Mais c'est aussi bon pour le séminaire qui va venir. On peut aussi montrer que on peut ajouter les champs spinoriels au modèle sigma non linéaire. Donc, du côté supergravité, on sait ce qu'on doit faire. Hein. Bien sûr, on sait comment avoir le gravitino. Donc, ça, le Lagrangien existe. Du côté modèle sigma non linéaire, on peut inclure, en utilisant les dérivées covariantes qui apparaissent naturellement dans les modèles sigma non linéaires, on peut introduire les champs spinoriels. Et à nouveau, jusqu'à un certain niveau, ça marche bien. Et on peut montrer notamment que la connexion... donc les champs spinoriels, on sait qu'ils se transforment sous K de E10. Ça a été abondamment discuté la semaine passée au séminaire d'Axel. Et donc, on peut étendre certaines des représentations de spin demi-entier de SO10 à K de E10, et en particulier celle qui contient le gravitino. Et on peut montrer que dans les équations des champs spinoriels qu'on va écrire en utilisant les outils des modèles sigma non linéaires et la connexion qui est associée au sous-groupe compact, KE10, sous lequel se transforment les champs spinoriels, on obtiendra les équations de la supergravité pour le gravitino aussi, jusqu'à un certain niveau. Donc à nouveau, il y a des choses qui marchent bien. En particulier, on obtient les dérivées covariantes complètes avec la 4 forme. Mais... à nouveau, on ne comprend pas bien comment les choses doivent marcher au niveau supérieur dans le cadre du modèle sigma non linéaire. Je devrais dire que, en fait, pour toutes les théories qui conduisent à un billard de Coxeter à la limite BKL ayant ses belles propriétés, la même analyse peut être faite. On peut écrire le modèle sigma non linéaire et faire la comparaison avec le Lagrangien de départ et montrer que ça marche bien jusqu'à un certain niveau. En fait, ça commence à coincer, et donc je pense qu'il y a quelque chose à comprendre là, au niveau du graviton. Le dernier niveau où on peut dire des choses intéressantes, c'est le dual du graviton. Et au-delà, on a du mal. Alors, le dual du graviton, il apparaît au niveau 3 pour la supergravité maximale. Donc, les choses vont bien jusque-là, mais une fois qu'on arrive au dual du graviton et qu'on veut aller au-delà, ça devient compliqué. Alors, évidemment, quand on a des transparents, ça va toujours plus vite. Donc ceci m'amène aux conclusions. Donc je vais pas dire beaucoup plus sur ces conjectures parce que ça reste encore beaucoup conjectural. Vous avez entendu d'autres approches à ces symétries cachées, notamment par Guillaume, où on a pu aller plus loin que ce que je vous ai expliqué, basé sur les billards. Donc, il y a des travaux beaucoup plus récents qui ont été faits, qui ouvrent des portes extrêmement intéressantes. Mais sur les billards, je ne dirai pas plus. Et je vais donc conclure maintenant, et conclure en rappelant à nouveau ce qui est établi et ce qui n'est pas établi. Donc, on a vu que au voisinage d'une singularité de genre-espace, la dynamique des systèmes Einstein-matière est extrêmement simple, finalement. Enfin, simple à formuler, puisque c'est des billards hyperboliques d'un type extrêmement particulier qui apparaissent. Alors, évidemment, les billards hyperboliques, ne dites pas que j'ai dit que c'était simple. C'est des choses compliquées, il y a du chaos, etc. Mais enfin, on voit qu'on arrive finalement à une description du système où en chaque point, on a un tel billard. Et étant donné qu'il y a un lien entre ce billard et les symétries qui apparaissent par réduction dimensionnelle, ça suggère la présence d'une symétrie énorme qui serait décrite par une algèbre de Kac-Moody infinidimensionnelle de type hyperbolique. Structure mathématique intéressante en soi, donc même si la conjecture n'est pas juste. Hein, donc ça valait la peine d'écouter l'exposé. Dans le cas de la supergravité maximale, c'est E10. Et pour E10, il y a un matching quand même que je trouve spectaculaire entre la dynamique de la supergravité et les équations qui sortent du modèle sigma non linéaire, en tout cas au niveau les plus bas. À la fois, on a le bon coefficient du terrain de Tin-Simons, on a aussi des bonnes dérivées covariantes pour les spinners, donc il y a des choses qui marchent bien. Mais, d'abord, sur le plan mathématique, E10 reste quand même toujours relativement peu compris, et sur le plan de la physique, la conjecture reste encore à démontrer, et ce qui nécessite une meilleure compréhension des niveaux les plus élevés, et peut-être aussi du rôle que doit jouer la dualité pour décrire pour comprendre en tout cas ces niveaux plus élevés. Vous avez vu qu'il y avait une dualité relativement bien comprise entre la 3-forme et la 6-forme, entre le graviton et son dual, c'est déjà moins bien compris là. Enfin, c'est bien compris au niveau linéaire, mais et même complètement compris au niveau linéaire, c'est un peu moins bien compris, je dirais, au-delà. Il y a encore des choses à faire, et c'est ça qui est intéressant en un sens. Voilà, donc sur ce, je vais, que je termine le cours. Il n'y a plus de transparent, et donc je vais m'arrêter, et je suis bien entendu disponible pour toute question que vous auriez. Mais je voulais surtout, comme la fin, c'est des conjectures, et comme les conjectures ont été formulées très rapidement, je voulais insister qu'à la sous-tendance ces conjectures, il y a tout ce travail remarquable de BKL, qui quand même donne une description des singularités de genre-espace extrêmement intéressante, et même indépendamment des conditions de symétrie cachées. Il y a quand même des résultats. Il faut quand même se rappeler que les équations, même Einstein pur à 4 dimensions, c'est extrêmement dur. C'est extrêmement dur d'avoir des solutions exactes. Néanmoins, il y a une description au voisinage des singularités de genre-espace qui finalement est, en tout cas, on peut l'écrire facilement. C'est des billards. C'est un billard hyperbolique, on peut dessiner même dans le plan de Poincaré la forme du billard, on a les angles. La description est simple. Et comme je vous l'ai dit, cette partie-là est solide. Alors, elle n'est pas complètement démontrée d'un point de vue mathématique, il y a encore des choses mathématiques à faire, mais l'approche de BKL a été validée à la fois par des méthodes d'analyse lorsque le billard est de volume infini. Il y a des résultats mathématiques forts, et on a entendu ça au deuxième séminaire, des résultats très forts. Et lorsque le volume est fini, c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'on a ce nombre infini d'oscillations, et le mouvement est chaotique, donc c'est plus difficile d'avoir des résultats analytiques. Mais si on, si on fait d'autres... Donc, mais alors, dans ce cas-là, il y a des résultats numériques, et il existe aussi des résultats analytiques, mais dans le cas où on fait des hypothèses d'homogénéité qui gardent les murs relevants. On ne peut pas être trop brutal dans les hypothèses d'homogénéité, parce qu'alors on enlève tous les murs et on a Kastner, mais en faisant des hypothèses d'homogénéité sous des groupes non abéliens, on peut garder les murs relevants et avoir... et dans ce cas-là, démontrer qu'effectivement BKL et le comportement chaotique de BKL est mathématiquement, rigoureusement justifié. Donc il y a à la fois des arguments heuristiques physiques qui ont conduit à cette approche, les premiers, mais après, ça a été largement validé, même si on n'a pas encore une formulation mathématique complètement et rigoureuse, couvrant également le cas chaotique. Et alors, je voulais dire que du point de vue symétrique hachée, évidemment, c'est un sujet ancien, et beaucoup de travaux ont été faits, non seulement selon cette approche, mais selon d'autres approches. Et le premier séminaire par Bernard a essayé de dresser un tableau large, justement, de ce qu'on peut espérer, de ce qui peut apparaître comme symétrie cachée. Et donc, c'est un peu... Il y a peut-être une flèche... Bon, après tout, les équations de la gravitation sont réversibles. Hein. Donc, il y a certains séminaires qui peut-être... l'ordre des séminaires n'était peut-être pas entièrement adapté, mais c'est comme ça, les séminaires. Voilà. Sur ce, je vais m'arrêter.